Les milieux humides sont partout autour de nous. Pourtant, on les connaît encore très peu et on les perd, souvent sans même s'en rendre compte. Depuis plus de 50 ans, Canard Illimité Canada agit au Québec pour les conserver, les restaurer et mieux comprendre leur rôle essentiel. Mais derrière ces actions, il y a une histoire faite de projets, d'innovation, de collaboration et surtout de personnes engagées. Dans ce balado, on vous propose de remonter le fil de cette histoire. Je suis Fabien Cloutier et je vous invite à plonger dans l'histoire de Canard Illimité Canada au Québec avec moi. 50 ans de projets et d'humains ont façonné Canard Illimité Canada, une organisation unique. On revient maintenant sur ce que ça a changé, 50 ans d'activité au Québec. On en parle avec deux employés, Stéphanie Murray, tu es coordonnatrice de la cartographie détaillée des milieux humides. Patrick, tu es gestionnaire de l'équipe de gestion des sites de conservation. Salut, merci d'être là.
Merci.
D'abord, ça serait quoi les impacts concrets de 50 ans d'activité de Canard Illimité au Québec?
Bien, c'est sûr qu'on est une organisation pionnière dans la création et la restauration des milieux humides. Donc, dès les années 70, rapidement, Canard Illimité a commencé à s'impliquer au Québec, partout dans la province. C'était une organisation qui avait un soutien financier quand même important. Donc, on est venu faire des complexes de milieux humides, des grands aménagements qui font en sorte qu'on a un peu tracé la route. Donc, 50 ans, c'est une évolution, mais on a comme vraiment été les pionniers à démarrer des gros projets d'aménagement avec des structures, des fois des grosses structures, des digues de terre, des choses aménagées. Et donc, c'était vraiment le premier lancement là, au Québec. Donc, on a presque 313 projets au Québec, plus de 150 structures à gérer. Ça, qu'est-ce que ça a fait? Bien, ça a aménagé près de 40 000 hectares au Québec. 40 000 hectares, c'est environ la superficie de l'île de Montréal. Donc, l'île de Montréal a tout près de 50 000. Donc, on a un peu plus de 40 000. Ça a permis de rejoindre aussi une collectivité, donc un ensemble de bénévoles qui nous a supportés à travers la province pour vraiment nous aider dans nos démarches et des propriétaires fonciers. Donc, de faire des aménagements, ça impliquait des ententes de conservation avec un paquet de propriétaires, ce qui fait en sorte que ces propriétaires-là, bien, il a fallu les convaincre. Puis au fil du temps, ces gens-là ont embarqué, ils ont soutenu la cause. Donc, la mission depuis 50 ans est toujours la même. Nos projets ont changé, mais la mission reste la même, qui est la restauration, conservation des milieux humides.
Parce que des fois, on les restaure, des fois, on s'arrange pour, en fait, pour qu'un territoire, on le ramène à son milieu un peu. Il a été des fois détruit par l'homme, en fait, ou par des développements qui se sont faits de moins bonne façon.
Exact. Puis il y a eu beaucoup de pression, que ce soit anthropique, urbanisation, l'agriculture, donc plusieurs pressions, ce qui fait en sorte qu'on a restauré ces aménagements-là, mais des fois de la création, on parle de création, à ce moment-là, on peut créer un milieu humide de toutes pièces. Donc, on peut aller dans un parc urbain où c'était une plaine gazonnée, puis on peut aménager un marais. Donc, vraiment, on a diversifié nos actions un peu partout parce que l'objectif est vraiment d'avoir des superficies en milieu humide et donc on devait se diversifier pour augmenter. Et au fil des années, dans 50 ans, ben on le sait, on a perdu beaucoup de ces superficies-là. Mmh. Donc, on devait trouver, mettre en place des actions pour vraiment compenser ces pertes-là.
Stéphanie, est-ce que tu pourrais nous en dire plus sur la cartographie de ces lieux-là?
Nous, on a construit énormément autour des connaissances des milieux humides. Patrick en a parlé, on a beaucoup d'actions sur le terrain, on est très présents sur le terrain. Mais pour savoir où regarder, où faire des actions, on a besoin de savoir sont où nos milieux humides. Donc, au Québec, on a investi dans la connaissance scientifique et à travers la cartographie détaillée des milieux humides. Depuis le début des années 2000, on a développé en partenariat l'équipe de réalisation de ce projet-là, c'est Canard Illimité Canada au Québec et le ministère de l'Environnement. Provincial. Donc, on a développé un projet de cartographie détaillée des milieux humides des territoires habités du sud du Québec, dont l'objectif, c'est de pouvoir documenter où sont les milieux humides. C'est un projet qu'on fait en collaboration avec, on a plus d'une centaine de partenaires avec qui on collabore. Donc, ce n'est pas un projet seulement de Canard et du ministère. On a besoin des gens, pour avoir vraiment un impact, on a besoin de travailler avec les gens des régions pour pouvoir avoir un impact au niveau de notre programme de cartographie. Jusqu'à ce jour, on a cartographié plus de 82 000 km². 82 000 km², est-ce que l'un de vous sait à quoi ça correspond environ?
On a parlé tout à l'heure, 50 000 hectares, l'île de Montréal. Là, on est en kilomètres carrés. Fait qu'on est pas mal plus gros.
Oui, oui, oui.
Exact. Ça représente, je peux vous le dire, ça représente environ la superficie de la région administrative de Gaspésie, Île-de-la-Madeleine.
OK, quand même.
Fait que c'est quand même très grand. À travers ce territoire-là, on a plus de 9000 km² qui est identifié en milieu humide sur le territoire qu'on a réalisé, ce qui veut dire environ 11% du territoire en milieu humide. Si je prends, par exemple, l'île d'Orléans, 9000 km², ça correspond à 50 fois l'île d'Orléans. Quand on fait le tour de l'île d'Orléans, je ne sais pas si tu viens des fois dans notre région à Québec, c'est 70 km pour faire le tour de l'île d'Orléans. Donc, fois 50.
Okay. C'est quand même c'est un bon tour de vélo.
C'est un bon tour de vélo, effectivement. Effectivement. Puis ça, c'est pas seulement des chiffres. Ça nous aide finalement à savoir, à mieux planifier le territoire, à savoir où est-ce qu'on peut construire, où est-ce qu'on va faire de la protection pour des milieux humides, où est-ce qu'on va faire des aménagements pour la restauration ou la création.
C'est des messages que vous allez passer, j'imagine, aux municipalités ou des choses comme ça, ou de signifier à différents intervenants du milieu de l'urbanisme ou du développement de faire « Hey, il y a quelque chose ici qui est unique et qu'on doit protéger, en fait. »
Effectivement. Notre base de données, on la travaille avec les partenaires régionaux, justement pour qu'ils puissent l'utiliser, la travailler. Puis ça a vraiment changé l'aménagement du territoire au Québec. Pour les territoires habités du sud du Québec, les gens utilisent beaucoup notre cartographie.
Ça serait quoi, sur le plan écologique, là, les impacts les plus importants de tous ces développements-là avec les années, de tout votre travail?
Assurément, ce qui est, tu sais, on voyait au tout début, les années, même, je voyais aller avec années 50-60, on voyait les petites mares à canards, des petits étangs, ben, c'était des lieux incultes. Fait que c'était des lieux qu'on voyait ça comme qui servait à rien. On voulait drainer, puis c'était inutile. Alors que maintenant, ben, comme Stéphanie l'a amené un petit peu, au niveau de nos schémas d'aménagement dans l'urbanisme, maintenant, ces milieux humides-là, on doit les considérer. Et ça fait partie, c'est une partie structurelle des infrastructures qu'on doit gérer. Donc, on a des enjeux maintenant au niveau des municipalités MRC, au niveau de la qualité de l'eau, la disponibilité en eau. Et donc, ces milieux humides-là naturels, qui sont des filtres naturels, font le travail. Donc, à un moment donné, on s'est aperçu qu'au niveau écologique, on devait préserver ces habitats-là. Puis, ce qu'on a eu comme... Ce qu'on était chanceux, c'est qu'en étant les premiers au Québec, je pense qu'on a réussi à couvrir des grandes superficies de territoire pour faire des grands aménagements, ce qu'on ne pourrait plus faire maintenant. Mmh. Bien, ça nous a permis de conserver des grandes superficies au tout début. Puis, au niveau écologique, bien là, au fil du temps, on a adapté nos aménagements. Donc, dans certains cas, on aménageait, au tout début, on aménageait des marais à canards uniquement pour l'alimentation, nidification, c'est tout. Maintenant, on va essayer de cibler un peu le milieu, puis on va essayer de faire les meilleurs projets aux meilleurs endroits possibles. Donc, si, par exemple, la région du Lac-Saint-Pierre, on est dans une région de littoral, ben c'est quoi les espèces cibles qui sont là? C'est la perche chaude, c'est le poisson. Donc, maintenant, quand on va aller construire des aménagements, on va regarder les espèces qui sont présentes et on va adapter nos aménagements en fonction des espèces qui sont présentes.
Même si l'organisation, au départ, son but était de protéger la sauvagine, les milieux humides, c'est devenu rapidement quelque chose qui protège plusieurs espèces.
Exact. Ça fait que la biodiversité est là, puis le canard va trouver son compte. Donc, même dans un aménagement poisson, il y a de l'eau, donc la sauvagine va venir quand même utiliser ces sites-là. Donc, ça devient des aménagements beaucoup plus diversifiés et potentiellement écologiquement rentables.
Parce qu'au Québec, j'imagine que la diversité, en fait, dans le territoire, là, on parle d'un grand réseau hydrique, de rivières, le fleuve, il y a différents types de terrains. Ça doit amener aussi différents types d'aménagements de votre part.
Oui, ben oui, parce que tu sais, au tout début, on faisait plus de la restauration de marais. Maintenant, on a dû s'ouvrir un petit peu, s'adapter, puis de faire un peu les bandes riveraines, l'érosion des berges, tout ce volet-là. Donc, en milieu agricole, on va agir, on va amener d'autres actions un peu différentes. Lorsqu'on est en bordure de rive, bien effectivement, on entend parler beaucoup de maintenant nettoyage de cours d'eau à deux niveaux. Donc, on a vraiment adapté nos types. Et aussi en fonction des espèces qui sont présentes et de l'utilisation du territoire. Donc, soit en milieu agricole, bien, on va respecter l'utilisateur qui est le producteur agricole.
Est-ce que ça nous donne une meilleure résilience climatique, tous ces aménagements-là?
Bien, effectivement, comme l'a dit Patrick, la diversité des habitats qu'on maintient, qu'on restaure, est vraiment importante du marais au marécage boisé, il y a vraiment une diversité qui va être vraiment différente. On oublie souvent que les milieux humides, c'est des pouponnières naturelles pour différentes espèces. Ils vont retrouver, ça va être soit des lieux pour la reproduction, pour l'alimentation, des refuges. Donc, pour une multitude d'espèces, dont les poissons, les amphibiens, différentes espèces d'oiseaux, les insectes vont retrouver refuge aussi. Mmh. Quand on détruit des milieux humides, ben c'est pas seulement notre paysage qui change, mais c'est tout une structure écosystème, un écosystème qu'on vient détruire, puis ça a un impact sur les rivières, sur les lacs, sur les milieux forestiers, puis même sur les milieux agricoles. Donc, c'est vraiment une importance à ce niveau-là. Puis au niveau des changements climatiques, bien, on sait que les milieux humides, on dit souvent hein, qu'ils jouent entre autres, en plus de la biodiversité, ils ont un rôle à jouer au niveau d'une éponge. Fait qu'on va dire qu'ils retiennent l'eau. Ils vont minimiser certaines inondations, ils vont filtrer l'eau. Donc, canal limité dans nos actions, c'est certain qu'on a un impact pour la résilience climatique. Excuse-moi.
Donc, c'est pas juste la quantité, mais c'est la qualité des habitats. Et c'est pas seulement au bénéfice de la sauvagine puis de la biodiversité. Là. J'imagine que le travail de Canard illimité Canada, ça profite aux gens dans la communauté.
Effectivement, je suis vraiment de cet avis-là aussi. L'accès à la nature, on entend de plus en plus parler. Il y a des bienfaits au niveau de la santé mentale et de la santé physique, évidemment. Les milieux humides sont souvent à proximité des communautés, ce qui fait en sorte qu'on peut avoir des rassemblements pour les ornithologues. On peut avoir des rassemblements chasseurs, pêcheurs, des gens qui vont faire de la randonnée. Nos bases de données pour identifier les milieux humides sont disponibles et accessibles via Internet, fait que les gens peuvent les consulter pour chercher des sites qui vont être plus axés sur la chasse à la sauvagine. Ou un chasseur à la grande faune pourrait aussi chercher certains types d'habitats qui vont être plus en eau peu profonde. Les randonneurs peuvent consulter nos cartes pour pouvoir faire leur trajet en fonction d'aller visiter certains types de milieux humides. Si on veut voir des tourbières, il y a toute la végétation aussi qui se prête à pousser dans ces tourbières-là. Donc, ça peut être un intérêt. Donc, les milieux humides, c'est vraiment plus que seulement un milieu qu'on doit protéger, mais c'est aussi un milieu de vie pour tout le monde.
Puis j'imagine que quand les gens en profitent, ils ont envie aussi de le mettre en valeur avec les années, ils le connaissent mieux, puis ça, qu'il peut y avoir une certaine fierté d'avoir dans son coin un accès à une faune comme ça, puis à une biodiversité.
Oui, puis on a vu les gens à proximité de certains quartiers résidentiels où il va y avoir vraiment une appropriation des milieux. Donc, les gens vont aller marcher là chaque jour. Donc, ça devient des lieux visités à tous les jours. Puis, les gens s'approprient ces projets-là. Et ils deviennent en fait des genres de gardiens de territoire. Donc, nous, c'est hyper pertinent d'avoir des gens comme ça parce qu'on a de l'information qu'on n'aurait pas nécessairement à tous les jours quand on va visiter nos sites, quand on fait de la gestion. Mais là, on a des gardiens de territoire bénévoles qui se promènent, qui nous donne des informations, qui compile des données. Donc, la communauté est vraiment fière de ces aménagements-là. Donc, auparavant, on était vu comme on faisait un projet, les gens ne savaient pas trop. Maintenant, au fil du temps, ils sont appropriés ces sites-là, les utilisent, vont marcher là chaque jour et c'est des milieux de vie incroyables. Il y a même dans certains cas des promoteurs immobiliers qui, un jour, étaient proches de notre aménagement et vendaient un paradis écologique, naturel en bordure du marais. Donc, effectivement, il y a vraiment un attrait là, au niveau de la communauté de s'approprier ces sites-là.
Puis on sait qu'historiquement, les chasseurs ont eu un rôle à jouer dans la naissance de Canard illimité Canada, mais aujourd'hui, je pense qu'il y a encore un soutien à cette relève-là là, de jeunes sauvaginiers.
Oui, on a un programme de jeunes sauvaginiers d'ailleurs, puis nos aménagements, comme il y a une certaine accessibilité qui va être aménagée, sont souvent facilement accessibles, bien ça devient des sites hyper hyper intéressant pour des associations de sauvaginiers qui veulent amener de la relève. Donc, on est en perte de nombre de jeunes qui vont à la chasse maintenant. Donc, quand les sites sont facilement accessibles, bien, c'est des sites super importants pour eux, pour amener des jeunes, puis favoriser là, la relève à aller à la chasse à la sauvagine.
On a parlé dans un autre épisode de la cartographie, là, qui est un morceau très, très important des activités de Canard illimité Canada. Stéphanie, c'est quoi les impacts de 15 ans de cartographie au Québec?
En seulement 15 ans, on a développé un outil de connaissance qui est unique au Canada. On a développé un langage commun pour définir qu'est-ce qu'un milieu humide. On a plusieurs types de milieux humides que l'on retrouve et on a amorcé finalement. On a défini des définitions pour chacun de ces types de milieux humides-là. On a développé des méthodologies pour identifier les milieux humides par nos experts en photo-interprétation pour la cartographie, mais aussi au terrain. Donc, on a toute une méthodologie pour identifier les milieux humides en lien avec la végétation, le type de sol. On vient vraiment caractériser nos sols pour venir définir si on est dans un milieu humide et dans quel type on l'est. Donc, c'est vraiment quelque chose qu'on a changé. Puis, on a développé une base, c'est vraiment une base décisionnelle importante dont tous les experts en environnement jusqu'aux propriétaires privés vont consulter nos bases de données pour voir, bien, OK, j'ai un milieu humide sur mon terrain, quel type c'est? Donc, on a énormément de demandes. La base de données qu'on a développée, on la rend disponible à tous. Là, j'ai un exemple. Là, peut-être environ 2 ans, on a eu une demande de Ski de fond Québec qui nous ont demandé l'accès à nos bases de données parce qu'eux, ils développaient un nouveau réseau au niveau du ski de fond, puis ils voulaient savoir où étaient les milieux humides pour justement soit les éviter et puis bénéficier aussi là, pour la vision pour les skieurs. Mmh.
Puis des organismes comme ça, mais aussi, j'imagine, des MRC, des municipalités, ils peuvent utiliser vos bases de données. Là.
Certainement. On les travaille avec eux, puis sont intégrés directement dans les schémas d'aménagement. C'est vraiment la base de données qui est utilisée pour faire la planification territoriale. Mmh. Et le ministère de l'Environnement aussi, là, c'est la base de données qu'ils utilisent pour les autorisations, pour les validations. Ceci dit, par exemple, tu m'amènes sur un point intéressant, je trouve, la cartographie reste un outil de travail. Donc, elle a besoin d'être validée au terrain. Il y a des méthodes pour valider les milieux humides au terrain, mais si ça reste que c'est un outil de travail, on doit aller la valider. Dans certains cas, bien, ça peut être la classification, ça reste que c'est une photo-interprétation. On a des données qui sont super précises, mais quand même, il y a un besoin au niveau de la validation.
Tout à fait, parce que les MRC, quand même, ont utilisé votre carto, puis tu sais, ils ont été obligés de fournir des priorisations de conservation sur leur territoire, donc les plans, les fameux plans, que tu pourrais préciser le nom, puisque c'est plus ton domaine, mais ils ont eu à faire cet exercice-là de voir qu'est-ce qui restait comme milieu humide sur leur territoire, à prioriser des zones de conservation prioritaires. Donc, ça, l'outil que Canard Limité Canada a fait, ben, ça les a donné une base, puis après ça, il y avait de la validation terrain, bien sûr.
Effectivement, on parle des plans régionaux des milieux humides et hydriques que les MRC ont dû élaborer et fournir. Donc, c'est sûr que c'est une des données qui est utilisée, consultée pour réaliser ces plans-là.
C'est devenu un outil incontournable, en fait, là.
Effectivement, c'est vraiment devenu un outil incontournable pour l'aménagement du territoire au Québec.
La cartographie, c'est le fruit d'un travail collaboratif en partenariat avec de nombreux autres acteurs, mais la collaboration puis les partenariats là, n'ont pas toujours été aussi présents là, dans les façons de travailler au Canada.
Effectivement, au début, on était, comme je disais un peu plus tôt, on avait le soutien financier, on débarquait quelque part, on consultait pas grand monde, on disait « Canard, on sait ce qu'on fait ». On démarquait dans les municipalités, on aménageait des habitats. Puis on savait ce qu'on devait faire. Ça a beaucoup changé au fil des années. On s'est aperçu aussi que les municipalités MRC ou les organismes locaux présents sur le territoire avaient des fois une connaissance un peu plus fine du territoire. Ce qui fait en sorte qu'au lieu, on parlait d'adaptation de type de projet, bien, à un moment donné, on a commencé à consulter ces gens-là. Et en les consultant, bien, on avait une connaissance qui nous permettait de faire des meilleurs projets. Donc, eux nous apportaient, ils nous apportaient certains commentaires et sont devenus des parties prenantes. Y compris les municipalités, comme à un certain moment donné, dans les années 2000, on devait demander des permis aux municipalités, bien, on a commencé à offrir à aller les rencontrer avant le projet, ce qui fait en sorte que les gens, les citoyens, rapidement se sentaient concernés par le projet. Et là, il y avait une meilleure acceptabilité sociale sur le territoire pour dire « Ah, bien là, Canard débarque, ils nous consultent, ils veulent avoir notre opinion. Le projet, on donne notre opinion, vont les considérer. On fait un projet. » Et par la suite, ces gens-là s'approprient ces sites-là et viennent même qu'à demander, mettre un peu de pression sur la mise en valeur, ce qu'on ne faisait pas auparavant. Et là, maintenant, on offre l'accessibilité, un peu de sensibilisation, effectivement.
Alors, j'imagine qu'il y a des gens qui utilisaient déjà peut-être une part de ces terrains-là ou qui les avaient vus se transformer formés au fil des ans, et puis là, vous les impliquez directement dans le travail dès le départ. Donc, il y a quelque chose, des fois, peut-être même qui vient du souvenir de certaines personnes d'avoir vu un lieu se transformer, puis là, des gens qui peuvent vous aider à le ramener à quelque chose qui était, qui est plus près de ce que le site était avant la transformation humaine.
Tout à fait. C'est juste du positif avec les gens. Puis eux vont souvent, après ça, après coup, comme auparavant, au niveau de la gestion après aménagement, on en faisait pour certains cas. Là, dans ce cas-ci, bien, on a un réseau de bénévoles qui nous aide à faire la gestion, à vraiment faire de la surveillance, prendre des inventaires et nous fournir de l'information. Donc, à long terme aussi, c'est hyper positif pour nous d'avoir cette collaboration-là avec la communauté.
Oui, les projets ont une plus grande portée.
Effectivement, assurément qu'ils sont de plus grande portée. Comme Patrick le dit, la collaboration, elle va tout changer. On va avoir une plus grande portée, une plus grande crédibilité. On va créer des nouvelles collaborations, puis une collaboration, ça a un effet domino, ça peut amener vers une autre collaboration pour travailler ensemble là, à ce niveau-là. Je pense que Patrick, avec tous les projets qu'on a réalisés depuis les dernières 20 ans, on voit que quand on collabore avec des gens, bien, on additionne pas les résultats, on va même jusqu'à les multiplier, on va travailler en cartographie, ensuite de ça en protection, en restauration. Donc, il y a vraiment une amalgame.
À ce compte-là, quelle place va occuper Canard illimité Canada dans le milieu de la conservation? C'est un chef de file, en fait? C'est un meneur de projet?
Oui, on peut dire qu'on est quand même l'organisme étant les premiers. On a quand même une certaine crédibilité. Puis je pense qu'on a fait aussi notre nom à réaliser des projets. Donc, autant avec le gouvernement du Québec, on a différentes ententes financières. Ils savent, ils ont confiance à nous donner un projet qu'on va respecter les échéanciers puis on va respecter les budgets. Donc, on est reconnu quand même pour livrer des projets constructifs et bien gérés. On a développé une expertise dans ça. Notre équipe multidisciplinaire aussi a énormément grossi dans les trois dernières années, ce qui fait en sorte qu'on peut livrer différents types de projets, un peu de tout. Donc, effectivement, là, c'est une crédibilité, fiabilité. Et bien sûr, ben, l'expertise des 50 ans qui fait en sorte qu'on a eu des erreurs. On a fait certains projets qui n'ont pas bien fonctionné. On a corrigé le tout. Donc maintenant, on a toute cette expertise-là pour livrer des meilleurs projets. Donc ça, c'est reconnu, je pense, à l'échelle de la province. Puis on a façonné un peu le paysage un peu partout au Québec. Donc, certains gros aménagements que tout le monde connaît.
Si vous pouvez me donner des exemples des types de projets là, que vous pouvez faire.
Bien, autour du lac Saint-Pierre, on a fait des grandes haltes migratoires dans les années 80-90, qui étaient des énormes bassins dans lesquels on maintenait un certain niveau d'eau au printemps. Puis à ce moment-là, la sauvagine débarquait pour la migration printanière. Suite à ça, on avait installé des pompes. Et comme on voulait garder une activité agricole, donc on avait des ententes avec des producteurs agricoles, on partait les pompes, on asséchait ces marais, ces grands marais-là, et à ce moment-là, les agriculteurs pouvaient entrer au champ. Dans l'adaptation de ces concepts-là, donc ça se voulait un concept de compromis pour essayer de garder l'agriculture et la sauvagine, la conservation ensemble, la faune. Donc, au fil des ans, on s'est aperçu que ce type d'aménagement-là était plus ou moins, on n'atteignait pas les objectifs fauniques recherchés. C'est-à-dire que ce n'était pas les bonnes espèces qu'utilisaient les sites. Au niveau du rendement agricole, c'était difficile parce qu'on était en littoral. Donc, dans certains cas, les crues se maintenaient plus longtemps. Et donc, on avait des enjeux. Donc, on a révisé l'ensemble de ces gros complexes de milieu humide-là. Et on était dans l'habitat du poisson. Donc, on a dit, comment on peut faire un aménagement où le poisson n'a pas accès alors qu'on est dans l'habitat du poisson? Donc, on a revisité ces aménagements-là dans son ensemble pour garder une activité agricole qui est plus légère, qui est compatible avec la faune. On permet maintenant l'accès des poissons. On a modifié nos structures pour que maintenant, et on les a simplifiées en vue de la gestion à long terme. Et maintenant, le poisson a accès et s'est rendu des frayères à perche chaude très productives. Et par la suite, on remet ce poisson-là en circulation vers le fleuve Saint-Laurent, qui là va avoir des bénéfices au niveau pêche, chasse et tous les utilisateurs là, à ce moment-là.
Si vous aviez à résumer là, l'héritage des 50 ans de Canard illimité Canada, ça serait quoi?
Pour moi, l'héritage de Canard illimité Canada au Québec passe par une meilleure compréhension du territoire. C'est une transformation de notre vision qu'on a fait du territoire collectif. En résumé, on travaille sur le savoir. On veut savoir sont où les milieux humides, quel type de milieu humide, c'est quoi les habitats qu'on retrouve pour ensuite de ça agir sur le territoire. On peut faire de la protection, on peut faire de la restauration. Donc, on utilise de cette façon-là. On a aussi beaucoup d'activités de sensibilisation qui sont faites là, chez Canard Limité au Québec, qui sont vraiment importantes, qui permettent un dialogue avec des collaborateurs de toute forme, que ce soit même un dialogue pour sensibiliser les jeunes versus les MRC, les municipalités, le gouvernement. Donc, on a vraiment collaboré pour réaliser un dialogue.
Puis moi, je dirais au niveau de l'expertise de 50 ans, notre expertise maintenant, pendant de longues années, on a décidé que Canard faisait ses petites choses, puis on gardait nos choses pour, comme un consultant un peu, veut pas trop partager. Bien là, depuis une couple d'années, on a décidé de, si on veut atteindre les objectifs de conservation des milieux humides, on ne pourra pas le faire tout seul. Donc, comment est-ce qu'on peut mettre en place un programme? Donc là, on mobilise les communautés au complet et on a décidé de vraiment d'ouvrir toutes nos ressources et de mettre en, autant pour la carto, bien, autant en restauration, tout ce qu'on a comme, comme outil. Donc, pour accompagner tous les organismes locaux et toutes les autres organisations qui voudraient faire de la restauration partout sur le territoire. Et ça, ça va faire en sorte que là, on va mobiliser l'ensemble de la province pour faire plus de projets. Parce que malgré tout, on perd encore des superficies en milieu humide. Et là, on est encore en déficit, donc on veut atteindre un objectif. Et pour ça, ben, on a décidé d'offrir toute notre expertise à tout le monde. On fait des formations, on mobilise les gens pour que tout le monde, ensemble, on puisse faire des actions sur le terrain pour vraiment mener à terme le plus de projets possible.
Oui, puis pour avoir aussi, j'imagine, des effets qui vont être profitables à long terme pour nous et les populations, ceux qui vont nous suivre. Là.
Exact. On construit pour demain. Pour l'avenir, au final.
Merci Stéphanie, merci Patrick.
Merci beaucoup.
Merci.
Ce qui ressort de cette discussion, c'est que l'impact de Canard Illimité Canada au Québec ne se mesure pas seulement en hectares restaurés ou protégés. On parle d'un véritable mouvement qui continue de prendre de l'ampleur.